Comment vivre longtemps et en bonne santé? Dans cette vidéo, je partage avec vous 8 trucs simples qui peuvent faire la différence et vous aider à vivre plus longtemps et avec davantage d'énergie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que je ne suis ni médecin ni nutritionniste. Par contre, je m'appuie pour ces 8 choses que je vais partager avec vous sur 2 livres qui ont été écrits ou co-écrits par des médecins. Donc, le premier, c'est Anti-cancer du docteur David Servan-Schreiber. Et le deuxième, c'est un livre qui a été traduit avec un nom un petit peu racoleur en France. Il s'appelle Serons-nous immortels. Mais c'est un extraordinaire livre qui condense sur plusieurs centaines de pages l'essentiel de ce que la médecine aujourd'hui connaît pour faire en sorte de vivre le plus longtemps possible et en meilleure santé. Et il est étayé par plus de 200 références scientifiques et a été coécrit par le docteur Terry Grossman. Donc, je vous ai mis les références juste en dessous. Alors, le tout premier conseil, c'est le plus basique et pourtant, il y a beaucoup de personnes comme moi, par exemple, qui ont beaucoup de mal à l'appliquer. C'est tout simplement, et ça peut paraître être un conseil ennuyeux, mais justement, on va le transformer en jeu, on va le transformer en challenge, c'est de tout simplement bien mâcher. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on ne mâche pas suffisamment longtemps et qu'on avale des morceaux trop gros? Eh bien, imaginez la différence entre des tout petits morceaux d'aliments qui ont été bien coupés, broyés par les dents et puis même un peu prédigérés par la salive qui arrivent dans l'estomac et des gros morceaux comme ça qui sont avalés tout d'un coup sans avoir été proprement découpés, broyés, etc. Ça fait que l'estomac doit travailler beaucoup plus pour digérer. Du coup, il doit sécréter davantage de sucs digestifs et ça peut générer des ballonnements et puis des troubles digestifs importants. Et donc, Terry Grossman dit même que sur le long terme, ça peut léser l'estomac. Donc, on peut transformer ça en jeu tout simplement pendant les 3 prochains jours. Forcez-vous à manger plus lentement, à prendre conscience un petit peu de la nourriture que vous faites. Ne regardez pas votre smartphone ou autre chose pendant que vous mangez, pendant les 3 prochains jours. Je ne vous demande pas de faire des changements radicaux comme ça du jour au lendemain, mais faites juste cet essai-là et puis voyez ce que ça donne. Faites-en un exercice de pleine conscience pour à la fois davantage apprécier votre nourriture et puis en même temps faire ce petit geste santé qui est vraiment tout bête. Ensuite, le deuxième et aussi l'un des plus entendus puisque c'est celui de manger 5 fruits et légumes par jour, 5 portions de fruits et légumes par jour. Donc ça, c'est vraiment le conseil phare qui est promu par le ministère de la Santé via son site Manger Bouger et avec raison. Parce que les bénéfices apportés par une consommation de légumes frais naturels sont innombrables. Ils sont plein de vitamines, de nutriments importants pour la santé, de fibres et ils sont à faible index glycémique. Donc, toutes des choses qui sont vraiment très importantes. Et aujourd'hui, avec l'alimentation moderne, on peut passer des journées entières sans manger vraiment de légumes, en mangeant que des trucs qui certes nous nourrissent, mais qui sur le long terme sont pas du tout bons pour la santé. Alors attention, Terry Grossman et David Servan-Schreiber recommandent tous les deux de ne pas trop cuire les aliments parce que ça peut leur faire perdre notamment des vitamines. Ce que vous pouvez faire, c'est les cuire à la vapeur, c'est la cuisson, le type de cuisson la plus saine. C'est celle qui évite de mettre des huiles trop grasses ou pire de faire des fritures, ce qui est une des manières les plus pires au niveau de la santé de faire cuire des aliments. Et ça permet de préserver à la fois les saveurs et tous les bons nutriments qui se trouvent dans les légumes. Alors attention parce que souvent y a une petite confusion, c'est bien 5 portions de fruits et légumes. Si vous mangez 3 radis et puis 2 petites carottes, ça compte pas parce que c'est pas considéré comme une portion. À côté de ça, vous pouvez manger plus que 5 portions de fruits et légumes par jour, c'est pas un problème, c'est vraiment le minimum recommandé. Alors une petite astuce simple, parce que ça peut être un peu casse-pied de compter les portions de fruits et légumes qu'on mange tous les jours. Faites juste en sorte que la moitié des repas soit constituée de légumes, que la moitié de votre assiette soit constituée de légumes. Et ça inclut également le petit déjeuner. Pensez à manger des légumes au petit déjeuner. En l'occurrence, le petit déjeuner français typique, il est horrible au niveau de la santé. On mange quoi? Des céréales à haut index glycémique. On boit du jus d'orange, on mange du pain avec du beurre ou du Nutella ou de la confiture. Et donc ça, juste une parenthèse parce que là, c'est pas vraiment sur la santé, mais c'est sur les performances intellectuelles. Le problème de ce type de petit déjeuner, c'est qu'il a un haut index glycémique, c'est-à-dire que il est constitué de beaucoup de sucre, que ce soit de glucose ou d'amidon. Par exemple, si vous mangez du pain, ça vient de blé, donc il y a beaucoup d'amidon dedans. Et le fait est que vous allez avoir un pic de sucre, de glucose dans le sang en fait qui va se former. Du coup, le corps va sécréter un pic, enfin de l'insuline en fait pour pouvoir réguler ce sucre. Et en fait, vous allez avoir un pic de sucre et un gros crash après du taux de glucose sanguin suite à cette sécrétion d'insuline. Et du coup, vous allez avoir un petit coup de fatigue qui va se produire quelques temps après avoir mangé votre petit déjeuner. Et il y avait une expérience très intéressante, je vous ai mis la référence là juste en dessous, qui avait été faite par les scientifiques sur des écoliers en fait, où ils avaient dans le premier groupe donné aux écoliers un petit déjeuner typique à haut index glycémique et dans l'autre un petit déjeuner à faible index glycémique, donc typiquement voilà, noisettes, noix, des œufs, des légumes, etc. Et ils avaient ensuite mesuré leur performance intellectuelle à l'école, et celui qui avait les meilleures performances intellectuelles était le groupe qui mangeait des petits déjeuners à faible index glycémique. Donc moi-même, je mange maintenant, tous mes petits déjeuners sont composés de légumes. En gros, là, à Londres, j'ai mon petit restaurant, ma petite cantine juste à côté de chez moi. Et à chaque fois que j'arrive, le propriétaire sait exactement quoi faire. Je veux une salade avec plein de légumes dedans, un petit peu de poulet. Voilà, donc il y a des tomates, de la salade verte, de l'avocat, des poivrons. Soit du poulet, soit du saumon, ça dépend un petit peu des jours, ça varie pas mal. Et je suis assuré comme ça, lorsque je démarre la journée, que même si je passe le reste de ma journée à boire de la bière, à manger de la pizza, j'ai au moins eu un repas sur trois qui est extrêmement sain, avec plein de vitamines, de légumes, etc. Et ensuite, je bois aussi du thé vert, donc sans sucre, voilà, ce qui permet de vraiment faire quelque chose de sain. Alors souvent, quand je partage ça, les gens me disent « Ouais, mais attends, Olivier, tu manges ça au petit déjeuner, mais comment tu fais ?» C'est vrai que beaucoup de personnes perçoivent le petit déjeuner comme quelque chose d'un petit peu sacré et de pas changeable. Alors que selon mon expérience, c'est complètement contre-intuitif parce qu'en fait, c'est l'inverse. C'est beaucoup, 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 beaucoup plus simple de changer son petit déjeuner que de changer son régime alimentaire sur les autres repas dans la journée. Essayez. Le petit déjeuner, c'est beaucoup plus facile de le contrôler. Vous pouvez facilement, voilà, vous achetez, si vous êtes un célibataire pressé comme moi et que vous n'aimez pas faire la cuisine, soit vous trouvez un petit restaurant qui vous le fait pas cher, pas très loin de chez vous, soit, là par exemple, la salade au petit déjeuner, c'est pas sur la carte, je vais juste demander de me le faire, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et sinon, vous achetez des légumes surgelés, alors c'est pas le top, mais en termes de rapport entre le temps que vous passez et ce que vous avez en bénéfice santé, c'est sans doute le mieux. Des légumes surgelés bio si vous pouvez, vous savez, des sacs pleins de légumes congelés, mélangés. Et le matin, vous faites ça avec du thé vert, vous pouvez manger un petit peu de noix, de noisettes, etc. C'est très bon et ça vous permet, encore une fois, de démarrer la journée avec un truc sain. Et quoi que vous fassiez dans le reste de la journée, au moins, vous avez eu ça de sain et vous avez donc eu déjà pas mal de vos 5 portions de fruits et légumes. Une astuce toute simple aussi pour augmenter radicalement le nombre de fruits et légumes que vous mangez, c'est plutôt de boire des jus d'orange, des jus de pomme comme ça industriels. Achetez-vous un petit mixeur qui permet de faire des jus de légumes notamment. Alors vous pouvez faire des jus de fruits bien sûr, mais essayez de faire des jus de légumes. Vous allez voir que c'est vraiment surprenamment bon. On ne se rend pas compte à quel point c'est bon tant qu'on n'a pas goûté. Il y a des tas de recettes sur Internet qui existent, donc allez voir, vous tapez bon jus de légumes sur Internet ou recette de jus de légumes sur Internet. Achetez un petit mixeur comme ça qui vous fait du jus à partir de légumes, vous allez voir, c'est excellent. Alors le troisième conseil est justement lié au deuxième puisqu'il s'agit de boire du thé à la place de boire du café. En fait, de nombreux constituants du thé sont bons pour la santé. Il y a par exemple une étude récente du journal de l'American Heart Association, donc l'association américaine pour le cœur, qui a découvert que boire 2 tasses de thé par jour, ça réduit le risque de mort par infarctus du myocarde dans la proportion remarquable de 44%. Je vous ai mis le lien en référence juste en dessous vers cette étude. Alors, cette découverte s'applique au thé vert et au thé noir, mais pas aux tisanes. Alors le thé contient également de la N-théonine qui réduit le taux de cortisol, l'hormone du stress, et est un relaxant tout simplement. Alors le thé le plus bénéfique est le thé vert qui, avec des antioxydants supplémentaires, a des effets supplémentaires sur les maladies cardiaques et la prévention du cancer. Mais surtout quand vous prenez votre thé, prenez-le sans sucre. Je vous explique juste après pourquoi. Parce que la quatrième astuce, c'est tout simplement de réduire votre consommation de sucre. J'ai déjà partagé que quand vous avez un taux de glucose sanguin qui s'élève trop brusquement, votre corps réagit en sécrétant de l'insuline. Et comme je vous l'ai dit, le problème de ça, c'est que effectivement, l'insuline permet de garder le taux de glucose sanguin sous contrôle, mais souvent c'est trop efficace, c'est-à-dire que ça réduit le taux de glucose à un niveau trop bas et du coup vous avez ce qu'on appelle un coup de pompe. Et donc ça peut avoir un effet délétère par rapport à ce que vous recherchez. Et il faut savoir que manger trop de sucre, c'est également un facteur de risque pour le diabète, puisque avec le temps, le problème c'est que si vous mangez trop sucré, votre corps va sécréter de l'insuline encore, encore et encore pour pouvoir réguler comme ça votre taux de glucose. Et pour certaines personnes, ça peut déclencher un diabète de type 2. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que vos cellules deviennent résistantes à l'insuline et qu'il y a un phénomène un petit peu d'accoutumance. Et du coup, votre corps doit sécréter de plus en plus d'insuline pour avoir une efficacité de plus en plus réduite. Alors, le docteur David Charon-Schreiber nous dit que il y a aussi de nombreux problèmes qui sont causés par un taux excessif de glucose sanguin. Ils disent que ça inhibe le système immunitaire, que ça favorise la croissance de cellules pathologiques, notamment infections fongiques et cancers, et qu'il y a aussi une compétition entre le sucre et la vitamine C. La vitamine C, qui est utile notamment pour les luttes infectieuses, est moins efficace. Donc vous l'avez compris, essayez de réduire votre consommation de sucre, et ça passe déjà tout simplement par un truc tout bête, c'est que beaucoup de gens ont l'habitude de mettre du sucre dans leur café ou dans leur thé. C'est vraiment une mauvaise habitude. Essayez tout simplement, et ça c'est aussi un défi que je vous lance, parce que rappelez-vous, on est sur la chaîne des gens qui se bougent, même si je sais que beaucoup d'entre vous ne vont pas le faire. Donc faites partie de la minorité qui se bouge et qui agit. Essayez pendant les prochains jours de boire votre café ou votre thé sans sucre et vous verrez que ça passe très bien et que justement on profite davantage de cette boisson. Le cinquième conseil, c'est de manger anti-cancer. Donc là, ça vient directement du livre de David Servan-Schreiber. Donc, buvez des jus de légumes, ça c'est ce que nous dit le livre. Ça, je vous ai déjà fait un topo là-dessus, je ne vais pas y revenir. Alors, le régime méditerranéen recommandé aussi. Donc, il se caractérise par le fait qu'il est pauvre en viande rouge, il est riche en poissons, en fruits et légumes frais et en céréales complètes. Et il est associé à de nombreux bénéfices au niveau cardiovasculaire. Alors, il permet également de réduire le cancer, puis il utilise aussi pas mal d'huile d'olive, de sauce tomate et de tomates fraîches. Alors, un conseil qu'on retrouve sur les deux livres sur lesquels je m'appuie pour cette vidéo, et également qui est partagé par beaucoup de scientifiques, c'est d'éviter le grand Satan. Alors, qu'est-ce que c'est que le grand Satan? C'est tout simplement le sucre blanc, c'est ces carrés de sucre que justement on met dans le café, dans le thé. Ça a un indice glycémique de 100, c'est-à-dire qu'en gros vous le prenez, vous avez un taux de glucose qui fait comme ça et juste après votre corps qui sécrète de l'insuline comme ça, donc c'est vraiment à éviter. Alors perdez également votre excès de poids, ça paraît logique et ça l'est, tout excès de poids au-delà de votre masse idéale entraîne des risques supplémentaires de cancer, de maladies cardiovasculaires et de beaucoup d'autres choses. Évitez le tabac. Alors d'ailleurs, si vous fumez et que vous êtes dans le développement personnel, ce qui a priori vous êtes puisque vous regardez ces vidéos, il y a un vrai problème, j'avais fait une vidéo là-dessus, donc cliquez là pour la voir, parce que c'était une vidéo pour interpeller tous ceux qui pense être dans le développement personnel et fumer, parce que selon moi, c'est une contradiction absolument énorme. Sixième conseil, faites du sport régulièrement. On l'entend tout le temps et c'est pour une bonne raison. J'ai trouvé une étude très intéressante que je vous ai mis en bas là, qui montre que le taux de décès global d'un groupe qui pratique une activité physique était de 60% inférieur à celui d'un groupe témoin. Donc, il n'y a pas photo. Faire du sport régulièrement, c'est extrêmement important pour votre santé, votre longévité, votre énergie sur le long terme. En plus, il y a des tas d'autres bénéfices qui sont associés à une pratique sportive régulière. Donc, je vous les liste. Diminution des risques de maladie, je l'ai dit. Réduction de la pression sanguine, ça c'est bien pour les hypertendus. Augmentation de la force des ligaments et des tendons. Réduction du stress, elle aide à la guérison de la dépression. Amélioration du sommeil. Réduction de risque de certains types de cancers, notamment côlon, prostate, sein. Amélioration de l'apparence physique, amélioration de la confiance en soi, on le sait. Renforcement des os, réduction du risque d'ostéoporose, augmentation de l'énergie. Essayez d'éviter les sports à impact, parce que c'est pas parce qu'on fait du sport que c'est forcément sain. Ça, c'est aussi beaucoup souvent l'amalgame qu'on fait. Il y a des sports qui sont pas si sains que ça. On pense évidemment à la boxe, par exemple. Vous savez tous que ce boxeur très célèbre là, des années 70, il a la maladie de Parkinson. Les médecins pensent qu'il y a sans doute dans l'action de cause à effet entre tous les coups qu'il a encaissés et puis ça. Au-delà de ça, les sports impact comme le jogging par exemple ou le tennis font que vous allez avoir des centaines de milliers d'impacts supplémentaires au niveau de vos articulations sur votre vie. Les footballeurs, pareil. Ça peut être malsain pour votre corps, surtout si vous avez des problèmes au niveau des os. Il vaut mieux privilégier les sports sans impact. Donc, par exemple, à la place de faire de la course à pied, faites du vélo. C'est la même chose, sauf que vous n'avez pas d'impact qui vont abîmer vos articulations. Faites de la natation. Allez dans une salle et puis faites du vélo elliptique, par exemple. Vous pouvez aussi marcher, c'est des impacts qui sont raisonnables. Vous pouvez faire de l'aviron, du ski. Alors évidemment, il ne faut pas tomber, mais voilà, du ski, quand vous savez bien le pratiquer, vous ne tombez pas trop, il n'y a pas de souci. Alors le septième moyen va plaire à beaucoup puisqu'il s'agit tout simplement de se faire masser. Alors on n'y pense pas forcément quand on pense à la longévité et eh bien, à sa santé, mais eh bien, le massage permet de réduire fortement le stress. Donc le stress conduit à la sécrétion d'une hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol a beaucoup d'effets bénéfiques, mais le problème c'est que cette hormone est conçue pour donner un coup de boost à l'organisme dans des périodes très brèves et très intenses. Et certainement pas pour être sécrétée sur du moyen long terme en petite dose comme c'est souvent le cas si vous avez du stress dans la vie moderne. En fait, la sécrétion continue de cortisol est un facteur majeur de maladies cardiaques, de diabète de type 2, d'accidents vasculaires cérébraux, de cancer, de polyarthrite rhumatoïde, de dépression et d'accélération du vieillissement, rien que ça. Donc, il y a de nombreuses manières de lutter contre le stress. D'ailleurs, vous pouvez aller voir 9 manières scientifiquement prouvées pour réduire votre stress facilement en cliquant sur la vidéo qui est là. Mais voilà, le massage est sans doute un des moyens auxquels on pense le moins et qui pourtant est extrêmement facilement accessible aujourd'hui partout dans le monde. En fait, les bénéfices du massage incluent donc apaise et calme, soulage la douleur, améliore le sommeil, augmente la capacité respiratoire, améliore la digestion, réduit la constipation, améliore la circulation sanguine lymphatique, améliore la santé de la peau, accroît la conscience des émotions, augmente l'estime de soi, la valorisation personnelle, contribue à l'ouverture d'esprit, à la résistance au stress. Donc voilà, en plus je veux dire, il y a quand même plus désagréable comme chose à faire. Donc si vous l'avez jamais fait, et parfois je parle avec des gens, ils ont 30, 40, 50 ans, ils se sont jamais fait masser par des pros. Allez dans un centre de massage, faites-vous masser par des pros, vous voyez ce que ça donne. Alors c'est sympa aussi de se faire se masser en famille ou avec son conjoint, etc. C'est génial, mais de temps en temps, allez vous faire masser par un masseur ou une masseuse professionnelle, vous verrez que ça c'est sympa. Alors moi, j'adore les massages, je me suis fait masser à peu près partout dans le monde, partout où je suis allé. Justement, je m'amuse à tester un petit peu les différentes techniques dans les différents endroits du monde. Mais vous verrez que c'est aussi surtout une question de relations, enfin de techniques particulières. Chaque masseuse ou masseur a une technique différente et il faut expérimenter un petit peu pour trouver le masseur ou la masseuse qui va avoir la technique qui vous détend le plus, qui vous permet de vraiment, quand vous sortez, vous êtes une autre personne, quoi. Vous êtes sur un petit nuage et puis vous voyez le monde complètement différemment. Il y a des petits oiseaux qui chantent et tout, c'est génial. Et enfin, le huitième moyen qui est un des moins utilisés malheureusement en Occident, mais bon, qui se développe quand même, c'est la méditation. Alors, j'ai déjà parlé de la méditation beaucoup de fois sur cette chaîne. Je disais notamment que autant il y a 200 ans, si vous aviez senti quelqu'un dans la rue, enfin une personne lambda sans doute, que vous auriez trouvé qu'elle puait, et aujourd'hui ça nous paraît normal de consacrer quelques minutes chaque jour à nous laver, à laver nos dents, etc. Autant je pense que dans 200 ans, ça sera exactement la même chose avec la méditation. On prend le temps de prendre soin de notre hygiène corporelle, de notre corps, et on ne prend pas le temps de soigner notre esprit, de prendre soin de notre hygiène mentale. Et la méditation est l'équivalent à l'esprit de ce que le brossage de dents est équivalent à nos dents, tout simplement. Ça permet de purifier, de clarifier notre esprit et d'être tout simplement, de ne pas avoir de mauvaises senteurs dans notre esprit et d'être plus heureux. Et ça a été prouvé scientifiquement et reprouvé par plein d'études. Donc, quelques bénéfices de la méditation, c'est une réduction considérable du stress. Et donc, vous avez compris maintenant que du coup, on sécrète moins de cortisol et que du coup, ça, sur le long terme, c'est extrêmement important pour votre santé, votre énergie et tout ça. Une réduction de l'anxiété, de la tendance à la colère, des tendances dépressives. Un renforcement notable du système immunitaire. Eh oui, ça peut paraître incroyable, mais c'est lié également à la réduction du stress. Comme vous avez moins de sécrétion de cortisol, le système immunitaire, enfin, il y a plein de choses. Hein, voilà. Encore une fois, je ne suis pas médecin nutritionniste. Il y a sans doute quelques erreurs d'ailleurs qui sont glissées dans ma vidéo, mais encore une fois, je m'appuie sur quand même 2 livres très sérieux qui ont été vraiment appuyés par des centaines de références scientifiques. En tout cas, ça renforce le système immunitaire, c'est prouvé. Renforcement d'émotions positives et des facultés d'attention. En plus, ça augmente votre productivité. Enfin, la méditation, c'est vraiment le tout en un pour le coup. Une diminution de la tension artérielle chez les hypertendus, etc. Bon, bref, il y a plein de bénéfices. Donc, pour récapituler, 1, il faut bien mâcher. 2, manger 5 fruits et légumes par jour. 3, boire du thé plutôt que du café. Et 4, réduire sa consommation de sucre. Et ça passe déjà par arrêter de rajouter du sucre dans son thé et son café. 5, de manger anti-cancer. Et 6, de faire du sport régulièrement. 7, de se faire masser. Et 8, méditer. Alors, ça peut paraître compliqué de faire tous ces changements d'un seul coup, mais voilà, on va en faire un jeu. Et ce que je vous propose comme challenge, parce que je vous rappelle, on est sur la chaîne des gens qui se bougent, c'est pendant les 8 prochains jours, réduisez votre consommation de sucre. Arrêtez de mettre du sucre dans votre thé café. Buvez du thé à la place du café, c'est relativement facile. Essayez de manger quelques légumes en plus, par exemple notamment votre petit déjeuner. Posez-vous la question, qu'est-ce que je pourrais manger comme légumes ou comme fruits, à la limite, que j'aime bien le matin avec mon petit déjeuner qui me ferait plaisir. Mettez-vous à méditer 5 minutes par jour, c'est tout. Donc, vous pouvez aller voir une vidéo sur la méditation où je parle de ça, les techniques de base, là, en cliquant ici. Et puis, prenez un rendez-vous cette semaine avec un salon de massage pro. Voilà, ça, c'est, je veux dire, c'est sans doute le plus sympa, ça sera la récompense un petit peu. Programmez le massage, voilà, peut-être pas à la fin, allez au milieu de la semaine, comme ça, vous serez encore plus détendu. Vous verrez les bénéfices que ça a. Moi, j'essaye de me faire faire un massage à peu près au minimum une fois par mois parce que je pense que ça fait partie aussi de l'hygiène mentale et même corporelle que de se faire masser régulièrement. Et puis, il y a des petits trucs tout bêtes pour essayer de rajouter un petit peu plus de sport dans son quotidien. Par exemple, quand vous appelez quelqu'un, au lieu d'être assis sur votre bureau d'être statique, marchez, levez-vous et puis marchez. Si vous n'avez pas besoin d'être devant votre écran et que vous parlez juste à la personne, qu'est-ce que ça change de toute façon que vous puissiez marcher? On n'est plus dans les années 80 où il y avait encore un fil à notre téléphone, on est d'accord? Vous pouvez marcher n'importe où avec votre portable, donc marchez. Imaginez le nombre d'appels que vous passez dans une année et que à chaque fois que vous passez un de ces appels, vous marchez, ça fera une différence énorme en nombre de pas. Et voilà, ce genre de simple petit truc peut faire la différence sur le long terme pour votre longévité.
Hey ! Merci d'avoir écouté ce MP3 qui est tiré d'une vidéo publiée sur la chaîne YouTube. Donc comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous aimez écouter ces podcasts sur iTunes, eh bien allez tout simplement sur iTunes pour noter cette émission. Voilà, donnez-lui une note si vous l'appréciez. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez voir les vidéos originales desquelles sont extraits les podcasts en allant sur olivier-roland.tv. Hein, olivier-roland, R-O-L-A-N-D.tv. Merci d'avoir écouté ce podcast. À demain pour de nouvelles aventures dans le prochain.